On parlait tantôt avec Bernard. C'est sûr que hier, on a tous été, je pense, un peu secoués quand le premier ministre nous a dit que pour ce qui est du matériel de protection, les masques, ben on a des stocks pour de 3 à 7 jours. Et quand vous parlez à des gens terrain, ils vous disent qu'on est plus près du 3 jours que du 7 jours. C'est le premier constat. Deuxièmement, Montréal demeure l'endroit chaud au Québec et on sait que la crise frappe un nombre très élevé d'endroits où habitent des personnes âgées, ce qui était peut-être prévisible, en tout cas, ça se confirme. On en parle ce matin avec Dr Mylène Drouin, qui est la directrice régionale de santé publique de Montréal. Bonjour, Dr Drouin.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, si on faisait un peu la carte de Montréal, vous et moi, ce matin, là, on a ciblé beaucoup d'arrondissements situés dans le centre-ouest de Montréal. Est-ce que ça demeure encore les points chauds ou si ça semble vouloir s'étendre à la grandeur de l'île?
Ça semble vouloir s'étendre, mais ça demeure quand même assez centralisé. C'est sûr que l'Est et l'Ouest ont des taux beaucoup plus bas que le centre de l'île de Montréal, mais les arrondissements comme Côte-Saint-Luc, Hampstead, Notre-Dame-de-Grâce demeurent les arrondissements avec les plus hauts taux. Mais on voit clairement là que la transmission communautaire est bien installée à Montréal. Donc, c'est très central, mais on le voit là, jour après jour là, qu'on a de plus en plus des taux qui augmente dans d'autres arrondissements comme le Plateau, Ville-Marie ou Centre-Sud. Là.
Quand vous regardez les cas, on a parlé d'endroits donc, où habitent les personnes âgées, les résidences notamment, c'est vraiment ça qui est au cœur actuellement, non?
Exactement. Là, puis l'enjeu qu'on a actuellement, c'est aussi ces éclosions-là dans des résidences de personnes âgées ou dans des CHSLD, parce qu'évidemment, c'est là qu'on a nos populations les plus vulnérables. Et je dirais que les mesures qu'on a ajoutées dernièrement, c'était aussi pour nous permettre d'être capable de s'assurer, comme les ordonnances individuelles, de s'assurer que les gens en CHSLD, c'est plus facile à faire respecter, mais quand on arrive dans des résidences de personnes âgées ou privées ou où il y a un petit peu plus de liberté, je dirais. On a plus de difficultés, des fois, on a plus de gens récalcitrants et c'est vraiment ces endroits-là qu'on veut protéger en premier lieu parce que c'est vraiment des gens vulnérables qui vont avoir des formes graves de la maladie. Là.
Quand vous regardez l'évolution de la crise depuis le début, on est le 1er avril, selon l'estimé que vous faites pour Montréal, est-ce qu'on est au début de la courbe, est-ce qu'on est en mi-parcours ou est-ce qu'on est près du pic?
On est au début de la courbe. Je dirais, tu sais, avant-hier, on a eu 381 cas. C'était la journée avec le plus grand nombre de cas. Par contre, quand on regarde là, les 5-6 derniers jours, on double pas nos cas. Puis on va le voir, là, je vais annoncer les chiffres aujourd'hui. Donc, on voit quand même qu'on a une progression quotidienne, puis c'est normal parce qu'il y a une transmission communautaire, mais on n'est pas dans cette courbe exponentielle qu'on pouvait voir en Italie où à chaque 3-4 jours, le nombre de cas double. C'est sûr qu'on est un peu à la merci là, de ce qui se passe comme dépistage sur le terrain, puis c'est pour ça qu'on va probablement ajouter au cours des prochains jours des nouveaux outils pour nous permettre de vraiment capter ce qui se passe sur le terrain en termes de personnes qui vont se déclarer comme ayant des symptômes, même si on n'arrive pas à dépister tout le monde. Donc, on voit clairement là, que notre courbe augmente, mais on n'est pas en train de doubler le nombre de cas à tous les 2-3 jours.
En un mot, le mois d'avril va être un mois déterminant.
Oui,
là.
Exactement. Puis c'est sûr qu'un des indicateurs qu'on suit de près aussi, c'est la progression des hospitalisations parce que ça, c'est vraiment un indicateur qui est assez fiable des cas sévères qui ont besoin donc de services de santé puis qui nous donne un peu un bon proxy de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça aussi, on voit, oui, qu'il y a une progression, mais c'est pas une progression exponentielle non plus du nombre d'hospitalisations dans la région de Montréal.
La grande crainte de beaucoup de gens, c'est la capacité du réseau de la santé à absorber cette vague qui s'en vient. Quand le premier ministre nous dit, évidemment, on a des commandes, là, mais on a une gestion serrée des stocks et on n'est pas loin d'être en rupture de stock. Mm-hmm. Là, ça inquiète avec raison les gens de première ligne. Comment on peut gérer? Puis là, mettons, je ne veux pas jouer au scénario les pires, là. Mais je sais que dans les hôpitaux actuellement, là, puis on comprend pourquoi, là, les masques sont difficiles à obtenir. Qu'est-ce que vous dites comme responsable de la santé publique aux gens de première ligne là, qui sont angoissés à l'idée d'aller dans un hôpital travailler?
Mais c'est sûr que ben, les gens qui vont aller travailler et qui sont face à des clientèles à risque ou porteuses de COVID, je veux dire, on a l'obligation de les protéger. Là, on ne peut pas se permettre de ne pas les protéger. C'est pour ça qu'on est si strict actuellement sur l'utilisation du matériel de protection et qu'on privilégie vraiment, tu sais, c'est pas toutes les régions qui sont en transmission communautaire, donc l'utilisation des masques chirurgicaux dans certains contexte, dans certaines régions, on n'a pas accepté que ce soit porté parce que on veut vraiment s'assurer d'en avoir pour les régions et quand la transmission communautaire va être dans d'autres régions, on va l'ajouter, mais pour le moment, on est très strict et ça va être la même chose pour les tests de dépistage. On le sait qu'on a des limites, on va donc privilégier vraiment des populations qui vont se faire dépister en priorité pour nous permettre rapidement d'agir autour de ces gens-là. Et c'est pour ça, en sachant qu'on a une capacité restreinte, l'importance des mesures populationnelles est de respecter l'isolement, de ne pas sortir si c'est pas nécessaire. Ça fait toute la différence parce que on peut avoir beaucoup de cas, mais si on a des cas moins graves, si chaque cas contamine peu de contacts, c'est comme ça qu'on va étendre notre courbe, puis on va maintenir une capacité du réseau, puis on va peut-être recevoir les commandes prochainement pour nous permettre là, de traiter tout le monde.
OK. J'entends deux, trois choses que j'aimerais valider avec vous. La première, c'est qu'on commence, semble-t-il, peut-être à manquer ou en tout cas à gérer de façon hyper serrée les éléments réactifs pour faire les tests. Autrement dit, là, il n'y a pas juste les masques qu'on a un problème. Est-ce que c'est vrai?
Mais je pense qu'on a des enjeux aussi, oui, au niveau des dépistages qui nous permettent. C'est un peu ce que je vous dis là. Puis aujourd'hui, j'imagine que le gouvernement va en parler. Mais ça fait déjà quelques semaines qu'on le sait qu'en termes de capacité de laboratoire, on l'a augmenté quand même considérablement. Mais n'en demeure pas moins que tant au niveau des écouvillons, des réactifs ou de notre capacité laboratoire là de traitement de tous ces prélèvements là, on a des enjeux à ce niveau là. Donc, l'idée, c'est de bien cibler les populations pour lesquelles c'est pertinent de dépister rapidement pour être capable, donc les travailleurs de la santé, les patients hospitalisés, les premiers répondants ou les gens aux services essentiels, les gens, toutes les CHSLD, RPA, ces endroits où on sait qu'on peut avoir des grosses éclosions, c'est là qu'on va dépister en priorité.
On a combien de travailleurs de la santé, là, toutes catégories confondues, qui ont testé positif?
Travailleurs de la santé, vous me posez une belle question comme ça. J'avais avant-hier, pour Montréal, 110 ouais. travailleurs de la santé qui étaient parmi les cas. Donc, c'est vraiment... C'est des gens qui soient, en grande partie, c'est des travailleurs de la santé aussi qui avaient voyagé. Là. Donc, on a quand même eu tout un lot de travailleurs de la santé qui ont profité de la relâche, mais qui malheureusement sont revenus. Et on a un certain nombre de cas, là, puis là, j'ai pas le chiffre avec moi, mais pour lesquels probablement que c'est des contacts de cas, soit en milieu de travail, mais des fois aussi c'est à travers les familles ou d'autres situations.
On n'arrête pas de dire, et avec raison, là, que le confinement demeure la voie privilégiée. Le lavage de mains, c'est ce qu'il faut faire, donc de ne pas sortir. Est-ce que vous ne pensez pas que l'heure est venue de serrer la vis encore? Compte tenu de ce qu'on se dit, problème d'accès à des équipements de protection, protéger notre première ligne du réseau, puis de voir que les cas, le mois d'avril va être dur, puis que on est peut-être rendu là, non?
Ben c'est sûr qu'on l'a. Il y a eu les arrêtés ministériels qui ont fermé oui. les régions avec peu de cas. Puis ça, je pense, que c'est une très bonne idée pour Montréal. Puis vous allez voir, comme je le disais, la courbe augmente, mais on n'est pas en train de doubler nos cas toutes les 2, 3, 4 jours. Donc on voit quand même que peut-être que nos mesures actuelles fonctionnent bien. Ce qu'on est en train de faire, c'est davantage des interventions ciblées dans des endroits où on sait qu'on a des récalcitrants, où on sait qu'on a. Et c'est un peu ce qu'on avait annoncé dimanche. On va rajouter des mesures aujourd'hui que je pourrais annoncer cet après-midi pour des milieux et des endroits ciblés. Mais quand on arrive à vouloir confiner les gens, puis on le sait que ça va durer des semaines, quand on brime des libertés individuelles, il faut être sûr au niveau épidémiologique que c'est vraiment la chose à faire puis que ça va faire une différence. Et actuellement, moi, ma courbe et ce qui se passe sur le terrain avec le SPVM, les ordonnances que je donne pour des gens récalcitrants, ça ne me dit pas que on a une population qui n'écoute pas les consignes. Au contraire, je trouve que les gens écoutent bien les consignes. Il nous reste quelques endroits problématiques et c'est ce qu'on est en train de faire. On pourrait avoir une approche comme la Chine, là, on ferme tout, tout le monde reste chez eux pendant 2-3 semaines, mais à un moment donné, ça fait en sorte que les gens, à la fin, vont avoir de la difficulté à être compliants. Puis ça se peut que dans 2 semaines, ça soit le moment où là, on veut que tout le monde soit confiné complètement.
Vous me parlez de lieux, puis je comprends que vous allez faire des annonces aujourd'hui, mais quand vous me parlez de lieux de culte qui sont récalcitrants, il y a encore des endroits, je ne sais pas moi.
Actuellement, c'est pas tant on va faire des, il y a des lieux dans des centres, comme je disais, des résidences de personnes âgées ou des endroits où on a des gens qui ne respectent pas les consignes, des endroits où sont hébergés des groupes. Et là, probablement qu'on va aller davantage aussi sur des interventions ciblées, pas tant pour des gens récalcitrants, mais pour renforcer les mesures, par exemple, dans des endroits où on sait qu'il y a des cas, puis ce sont des blocs, appartements, tu sais, multiplex ou des tours à condo où on n'est pas dans une résidence de personnes âgées, mais on peut faire une intervention ciblée pour être sûr de restreindre les visiteurs, que le nettoyage se fait bien. Mais là, vous me devancez dans mon annonce.
Oui, peut-être, mais je comprends ce que vous voulez dire en termes de mesures. L'autre question, elle a été soulevée hier aux États-Unis, a été soulevée aussi au point de presse à Québec, concernant l'utilisation de masques pour l'ensemble de la population. Là, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'études scientifiques. Vous pensez quoi que des gens qui vont à l'extérieur, donc qui sortent pour aller faire leurs courses, portent un masque? Trouvez-vous que c'est une bonne idée?
Je pense que Dr. Arruda l'a bien dit, le masque, si quelqu'un tousse, ben normalement, il devrait rester chez lui et être isolé. Mais pour protéger les gens autour de lui, des gouttelettes, clairement, c'est quelque chose qui est recommandé là, de porter le masque, de l'étendre à l'ensemble de la population. Je sais que le CDC est en train de regarder cela. Par contre, au niveau européen, il y a des recommandations qui ont été faites qui ne recommandent pas le port du masque à généraliser là, à l'ensemble de la population. C'est pas une mesure de protection individuelle, c'est vraiment pour protéger les autres. Et il n'en demeure pas moins que faudrait pas que si les gens se mettent à porter les masques, faut surtout pas relâcher les autres mesures de distanciation, d'isolement à la maison et de lavage de mains, parce que c'est celles-là qui sont vraiment prouvées efficaces.
Il y a des gens qui vont penser qu'on ne le recommande pas parce qu'on en manque.
Non, parce que si on arrivait à dire à tout le monde de porter un masque, oui, ça pourrait être des masques chirurgicaux si on en avait à la tonne, mais quand on regarde les recommandations du CDC, ils ont même gradé là, lorsqu'on a moins de matériel, qu'est-ce qu'on peut faire, puis dans le fond, des masques, je dirais, faits avec d'autres matériaux dans un contexte où on veut peut-être protéger, si on tousse quelqu'un d'autre, pourraient devenir acceptables dans un contexte de pandémie, mais c'est sûr que jamais on prendrait des masques dédiés au réseau de la santé pour les distribuer at large, là, généralement à toute la population.
OK. Merci beaucoup, Dr. Drouin.
Merci. Bonne journée.
Au revoir à vous aussi, Dr. Mylène Drouin, qui est la directrice régionale de santé publique de Montréal.